France Culture, il est 8h, le journal est présenté par Maxime Fayolle. Bonjour Maxime.
Bonjour Benoît, bonjour à tous. Près de 300 enquêtes ouvertes depuis le début du mouvement des Gilets jaunes. L'IGPN, la police des polices, sollicitée depuis plusieurs mois pour des soupçons de violences policières. Des actes qui touchent désormais toutes les couches de la population, nous dira Hugo Charpentier.
Des questions sans réponse en Russie. Une semaine après l'explosion d'un missile à propulsion nucléaire, le taux de radioactivité dans la région aurait dépassé de 16 fois la norme. Quelle contamination et surtout quelle stratégie pour les Russes avec ce missile ? Explication de Nathanaël Charbonnier.
Nous serons à Hong Kong également. Les forces chinoises sont stationnées depuis plusieurs jours à l'entrée de la région. Les manifestants tentent de trouver d'autres moyens pour protester. L'un d'entre eux, le retrait massif d'espèces dans les banques. Reportage à suivre de Valérie Crova. 2019 marque une année de tension entre la population française et leurs forces de l'ordre. Ces derniers jours, trois nouvelles enquêtes ont été confiées à l'inspection générale de la police nationale. L'une d'entre elles mentionne même des actes de torture et de barbarie par les policiers. Ça s'est passé à Saint-Ouen il y a une semaine lors de l'arrestation d'un jeune homme. La multiplication des enquêtes de l'IGPN amène donc à se poser cette question. Sont-ce les policiers qui sont plus violents ou bien est-ce la parole des victimes qui se libèrent ? Une chose est sûre, Hugo Charpentier, c'est que la police des polices enquête pour comprendre à chaque fois les circonstances et qu'il y a du travail.
Cette année, la police des polices n'a peut-être jamais été autant sollicitée. Avec les Gilets jaunes, l'IGPN s'est vu confier 288 enquêtes pour présomption de violence policière. Il y a aussi l'affaire Le Guay à Nice, celle de Steve Canisso à Nantes et tant d'autres encore. Evelyne Sirmarin est l'ancienne présidente du syndicat de la magistrature. Elle est désormais en charge des questions de police à la Ligue des droits de l'homme et selon elle, ce climat de violence s'est en fait installé au gré de la lutte contre le terrorisme.
Les mesures exceptionnelles qui ont été votées année après année en matière terroriste, qui ont justifier une énorme atteinte aux libertés individuelles, c'est-à-dire garde à vue, détention provisoire, contrôle de police, contrôle d'identité, etc. Toutes ces mesures ont débordé en fait sur le droit commun du maintien de l'ordre et ont amené effectivement le gouvernement à permettre à la police une attitude qui n'est pas une attitude relevant de la démocratie habituelle.
Une tendance qui serait devenue une arme politique, une arme d'intimidation. C'est ce que dénoncent de nombreux avocats comme Arié Halimi. Le défenseur de Geneviève Le Guay dit d'ailleurs n'avoir jamais autant travaillé sur des dossiers relevant de violences policières.
J'en ai jamais eu autant, clairement. Et aujourd'hui, les dossiers de violences policières, c'est pratiquement 80% de notre temps.
Selon lui, les victimes de violences sont désormais originaires de toutes les couches de la société. Et ça, ça change tout.
Il faut savoir que pendant très très longtemps, les habitants des quartiers populaires étaient victimes de ces violences, mais de manière invisible. Lorsque les violences policières ont commencé à s'étendre sur d'autres parties de la population, ça a entraîné une prise de conscience plus importante à cette problématique qui est celle des violences policières.
Résultat, les plaintes se multiplient et les policiers, eux, se braquent. Des syndicats appellent même à une mobilisation à la rentrée si des poursuites sont engagées.
Hugo Charpentier. Et si certains accusent la police de violence, d'autres défendent aujourd'hui l'une de ces brigades les plus célèbres, la BRI, la brigade de recherche et d'intervention, anciennement connue sous le nom d'Antigang. Des survivants du Bataclan ont écrit une lettre ouverte pour s'opposer à la disparition de la BRI. La brigade, qui dépend de la préfecture de police de Paris, pourrait être mise sous la coupe du RAID, qui dépend de la police nationale. Une réforme qui crée principalement un malaise en interne, Margot Delpierre, et qui irrite aussi ces survivants du Bataclan.
La lettre se termine ainsi. Il est pour nous logique et naturel de défendre les hommes qui ont risqué leur vie pour sauver la nôtre.
Je devais mourir, voilà.
Parmi les 7 signataires, il y a Grégory. Il était l'un des otages des terroristes retranchés dans un couloir du Bataclan ce soir-là, libéré grâce à l'assaut de la BRI.
J'ai passé 2h30 avec des terroristes, leur Kalachnikov pointé sur moi. J'ai survécu, c'est grâce à l'intervention de la BRI. C'est à la fois un symbole personnel et quand je repasse cette soirée, cette prise d'otage, ça prouve que le mal se termine. Par leur sang-froid et leur dévouement et leur courage, ils ont pris leurs responsabilités et ils nous ont sauvés. C'est l'intervention qui a fonctionné. Et les choses qui fonctionnent, pour moi, il ne faut pas les détruire. Justement, il faut les consolider, il faut les garder. Tout le monde a sa place sur le territoire. Je les ai rencontrés après pour faire mon retour d'expérience de mon côté. Et eux, aussi, ils se sont améliorés. Par exemple, vous voyez, ils s'améliorent à travailler avec les pompiers de Paris. La BRI, si je suis en vie, c'est grâce à eux. C'est important pour moi de les soutenir et c'est aussi important pour moi de leur dire merci.
D'après le journal Le Parisien, le rattachement de la BRI au RAID figure dans une liste de propositions établie par le nouveau préfet de police, Didier Lallemand, nommé pour mener à bien la réforme de cette institution créée en 1800. L'idée, elle, n'est pas nouvelle. Elle avait déjà été évoquée après les attentats de 2015. mais la fusion des unités d'élite, c'est un serpent de mer. Ce scénario déplaît puisqu'il revient à réduire les prérogatives de la préfecture de police, jusqu'ici très puissante, souvent même qualifiée d'État dans l'État. Une source proche du préfet confirme que la préfecture, y compris la BRI, fait l'objet d'une réflexion, mais que rien n'est pour le moment acté.
Le reportage de Margot Delpierre. Le feu de Pinède, près de Carcassonne, dans l'Aude, est désormais fixé. 900 hectares ont disparu. 150 pompiers travaillent toutefois à l'éteindre définitivement ce matin. Des incendies favorisés par une végétation sèche due à un mois de juillet record, mois le plus chaud jamais mesuré dans le monde, selon une agence américaine.
Un mois jour pour jour après sa démission, l'ancien ministre de l'écologie, François de Rugy, fait son retour officiellement et pour l'instant virtuellement à l'Assemblée nationale.
Une démission causée par les révélations de Mediapart. Il retrouve donc son siège comme la loi le prévoit. Pas sûr toutefois que François de Rugy soit accueilli avec bienveillance, Maxence Lambrecq, que ce soit au Palais Bourbon qu'il a dirigé en début du quinquennat Macron ou dans sa circonscription.
François n'imagine pas le niveau de rejet des gens, confie un député de la majorité. Je lui souhaite bien du courage pour renouer avec le terrain. Dans son entourage, on est plus optimiste. Il n'a rien à se reprocher. Les Nantais savent que ce n'est pas quelqu'un de bling-bling. Pour l'instant, François de Rugy reste silencieux, en vacances, en famille, jusqu'à la rentrée parlementaire début septembre. Et il espère encore revenir au gouvernement, même si personne n'y croit dans les bureaux des ministères, cela paraît improbable. Alors va-t-il atterrir à Nantes et tenter de briguer la mairie en mars prochain? Non, jure un de ses amis, il s'impliquera dans les municipales, mais pas en première ligne. Il va retrouver sa liberté, se réjouit un des piliers de l'aile gauche de la majorité. La semaine dernière d'ailleurs, il a aimé sur les réseaux sociaux une photo de Cédric Villani, qui se prépare sans doute à affronter Benjamin Griveaux dans la course à la mairie de Paris. Il portera aussi toujours des combats écolos, assure ses proches, et devra donc se confronter à l'après Notre-Dame-des-Landes. Comment réaménager l'aéroport de Nantes? Dossier local hautement inflammable.
Maxence Lambrecq. Un retour en France et un départ en Allemagne. Celui de la désormais ex-ministre de la Défense, Ursula von der Leyen. Elle va prendre la tête de la Commission européenne. Elle a eu droit hier à une grande parade militaire à Berlin. L'Allemagne et la France qui vont par ailleurs accueillir plusieurs migrants du navire humanitaire Open Arms. 4 autres pays européens se sont portés volontaires. L'Open Arms est désormais bloqué juste devant l'île de Lampedusa. Il a pourtant été autorisé à pénétrer dans les eaux italiennes par la justice. Mais Matteo Salvini, le ministre de l'Intérieur, a signé un nouveau décret pour empêcher aux bateaux d'accoster. Une décision qui empêche pour le moment la mise en place du mécanisme de répartition, Lakshmi Lotha.
Depuis plusieurs mois, le scénario se répète. Un bateau humanitaire bloqué au large des côtes italiennes avec des dizaines de naufragés. Car l'Italie refuse que les navires pénètrent dans ses eaux territoriales à moins d'un accord entre les membres de l'UE pour se répartir les migrants. En juillet, le président français a annoncé la mise en place d'un mécanisme de solidarité automatique entre 14 membres de l'Union européenne. Mais ce système n'a pas fonctionné pour le moment. Pour l'Open Arms, la Commission européenne indiquait même en fin de semaine dernière ne pas avoir reçu d'appel d'États membres pour accueillir des migrants. À chaque blocage de bateau, des États appellent l'exécutif européen pour se porter volontaire pour prendre en charge un certain nombre de naufragés. La Commission européenne joue le rôle de coordinateur entre États et fait les comptes. Une fois le nombre de migrants réparti, les autorités italiennes ou maltaises sont prévenues et le bateau peut alors accoster. Ce sont donc des discussions au cas par cas qui se déroulent à chaque fois. À plusieurs reprises, la Commission européenne a demandé aux 28 de trouver une solution pérenne. Actuellement, l'Ocean Viking est en mer avec plus de 350 migrants à bord. Il cherche un port où pouvoir accoster.
Les précisions à Bruxelles de Lakshmi Lotha. Autre navire bloqué pendant de longues semaines, le pétrolier iranien Grace One va pouvoir quitter le port de Gibraltar. Les craintes portaient sur la destination des barils de pétrole à bord. Les États-Unis soupçonnent une livraison à la Syrie. Ils ont demandé en urgence une nouvelle immobilisation du bateau, mais le chef du gouvernement de Gibraltar a refusé. Il affirme avoir reçu la promesse de Téhéran que le pétrole à bord ne serait pas envoyé en Syrie.
8h09 sur France Culture, c'est la suite du journal de Maxime Fayol. Une semaine après l'explosion d'un missile à propulsion nucléaire, plusieurs questions se posent en Russie.
Tout d'abord sur le niveau de contamination radioactive, le taux normal serait dépassé de 16 fois. Les autorités norvégiennes ont même détecté chez elles de l'iode radioactive, signe d'une propagation. Autre interrogation sur la tactique russe, car l'explosion serait survenue lors d'un essai d'un moteur fusée. Des questions questions, Nathanaël Charbonnier, auxquelles la Russie ne fournit aucune réponse.
L'explosion a eu lieu en mer Blanche sur la base militaire de Nonyoska où sont testés depuis les années 50 les missiles balistiques russes. Or, ce qui interroge, c'est le flou qui entoure l'accident, flou sur la nature de l'explosion, sur le niveau de radioactivité et sur les retombées pour la population. Bruno Charéron, ingénieur à la CRIRAD, commission indépendante sur le nucléaire.
Quelle que soit l'hypothèse, s'il y a vraiment eu une augmentation de la radioactivité ambiante d'un facteur 16 à 20 à une trentaine de kilomètres à l'est du lieu de l'explosion, il y a du souci à se faire par rapport au risque pour la santé des personnes qui vivent dans ces régions.
Inquiétude pour les populations locales et inquiétude sur les intentions russes et ces étranges missiles nucléaires, d'autant qu'on est en plein secret défense. Jean Averkamp, spécialiste du nucléaire pour Greenpeace aux Pays-Bas.
Ça arrive régulièrement en Russie et à chaque fois, il y a toujours beaucoup de doutes sur ce qui se passe, car les Russes ne sont pas connus pour être transparents dans ce genre d'affaires et c'est un vrai problème. Mais ils travaillent, comme les Américains, comme les Français, comme tout le monde, sur de nouvelles armes, et c'est leur façon de faire.
Et dans un communiqué en date du 14 août, Greenpeace en Russie s'inquiète aussi d'une possible contamination de l'eau dans la mer Blanche au nord de la Russie.
Explication de Nathanaël Charbonnier. Aux États-Unis, deux députés démocrates de confession musulmane se voient refuser l'entrée en Israël. Une décision des autorités israéliennes avec la bénédiction de Donald Trump. Sur Twitter, le président américain affirme que ses députés haïssent Israël et les Juifs. Le président américain qui se dit également inquiet des risques de répression violente à Hong Kong. Les forces chinoises ont placé des chars à proximité de la région autonome. Les rassemblements pro-démocratie durent depuis déjà 2 mois maintenant et les manifestants tentent de trouver des nouvelles manières de faire pression sur la Chine. La dernière en date, Valérie Crovas, c'est de retirer un maximum d'argent des distributeurs de banques.
Au milieu de cette petite place du centre de Hong Kong trône une statue, celle de Sir Thomas Jackson, qui a dirigé au XIXe siècle HSBC, la banque la plus importante de Hong Kong. Nous avons rendez-vous avec Andy Chan, c'est l'un des meneurs du mouvement de protestation.
J'ai demandé aux gens de retirer tout leur argent des banques afin que nous puissions protester contre le gouvernement et contre tout le système, car la gestion de la banque peut nuire au gouvernement chinois.
Même si cette action ne provoquera pas de banqueroute, on est dans le symbolique. C'est un moyen de montrer que chaque citoyen hongkongais est un acteur de la société et qu'il peut à ce titre influer sur le cours de la vie économique du pays.
Certains d'entre nous sont vraiment riches. Nous avons de jeunes professionnels, nous avons des médecins, des avocats, des personnes à la retraite. Nous ne connaissons donc pas les résultats de notre action, mais nous essayons tous les moyens possibles pour empêcher le gouvernement de brutaliser notre peuple.
Hong Kong est une grande place financière et la confiance est une donnée majeure. Alors que la croissance économique devrait marquer le pas cette année, elle sera en dessous de 1%. Son plus bas niveau depuis 2009.
Reportage à Hong Kong de Valérie Crova avec les moyens techniques de Jérémy Thuil. Des marins ont été enlevés au large de Douala au Cameroun. Marins asiatiques et européens, annoncent les responsables de la marine camerounaise. Sans donner plus de détails sur leur nombre ou leur nationalité, il pourrait s'agir d'un enlèvement par des pirates nigérians afin d'obtenir une rançon. Au Zimbabwe, une grande journée de manifestation est prévue aujourd'hui. Le pays vit une crise économique et sociale très grave depuis la démission il y a un an de l'historique président Robert Mugabe. La répression des manifestants est violente dans le pays et la crainte de nouveaux morts est grande aujourd'hui, Noé Oshé-Baudin, car la police a interdit aux partis d'opposition de manifester.
Depuis 6 mois, aucun membre de la société civile n'a osé manifester. Le traumatisme de janvier est encore présent lorsque 12 personnes ont été tuées et des centaines d'autres arrêtées pour s'être indignées contre l'augmentation de 150% des prix du carburant. Mais aujourd'hui, le ras-le-bol est bien là, aussi bien pour le parti d'opposition, le MDC, qui demande la tenue d'un grand dialogue au président Emmerson Mnangagwa, que pour la société civile qui ne peut plus se taire devant un pays qui ne cesse de s'effondrer. Car oui, le Zimbabwe prend l'eau de toutes parts depuis plus d'un an et demi maintenant, date du coup d'État qui a déposé Robert Mugabe, le président vétéran de 95 ans. L'inflation y est la deuxième mondiale après le Venezuela et culmine à 200% par an, selon les chiffres officiels, à plus de 580% par an, selon les experts. Le salaire des fonctionnaires a été divisé par 10 cette année, tout comme les retraites. Le pays, aux 3 monnaies, n'a fait que creuser sa dette et les coupures d'électricité durent près de 18 heures par jour depuis le mois de mai. Le programme alimentaire mondial indique qu'un tiers de la population est au bord bord de la famine. Alors les Zimbabwéens ont rendez-vous aujourd'hui dans les rues du pays de manière pacifique à assurer la coalition de la société civile. Mais le pouvoir en place se montre intraitable et assure que, je cite, « des terroristes se cachent derrière les organisateurs ». La répression a d'ailleurs déjà commencé. 6 des organisateurs ont été molestés par des hommes inconnus à leur domicile mercredi.
Explication de Noé Auchet-Baudin. Le temps de ce vendredi, une belle journée un peu partout en France. Quelques nuages ce matin sur la côte ouest. Les températures de 10 à 15 degrés en moyenne. Il est 8h15 sur France Culture. Ce journal a été préparé avec M. Le Chili.